cours de philosophie première, La personne humaine, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 20 mai 1999 à Saint-Jaudard.
Tout ce que nous avons essayé de préciser jusque maintenant, c'est pour que nous comprenions bien la place importante du corps au niveau de la personne, de l'acquisition de la personnalité, et que nous comprenions que la place du corps dans l'ordre du conditionnement est essentiel, substantiel, mais du conditionnement, le corps ne détermine pas ma personne. Ma personne est déterminée par la recherche de la vérité, par la finalité. Elle exige cette sagesse pratique de la prudence pour me dominer, pour unifier toutes mes forces vitales. C'est le rôle de la prudence. La prudence maintient l'unité, et une unité qui se fait tout le temps. À travers toutes mes énergies, mes facultés, mes puissances. Et la prudence elle-même doit être relativisée à la sagesse. Elle ne s'impose pas pour être comme la mesure de ma personne. Ma personne est engagée aussi dans la conquête d'un milieu de vie nécessaire, tant du point de vue recherche de la vérité que de l'équilibre humain, de l'harmonie humaine qui doit exister entre l'âme et le corps. Tout le point de vue artistique, et par le point de vue artistique, il y a quelque chose de plus que la création d'un milieu. Il y a la conquête de ce milieu. Ce n'est pas la même chose. M'harmoniser au monde, c'est très bien, mais ce n'est pas la conquête. La conquête, c'est l'aspect artistique. C'est plus artisanal. C'est, je crois, la très grosse différence entre les deux. L'artiste est conquérant. Et l'artiste ne fait pas seulement de créer un milieu, il est un peu celui qui est capable de transformer le milieu et de le rendre plus qualitatif, plus proche, par la cause exemplaire, de la finalité, avec tout ce que ça représente comme danger de s'arrêter à cette cause exemplaire. Le danger qui n'existe pas chez l'artisan. Mais à cause du panache, à cause de l'aspect de manifestation, il y a toujours un danger de s'arrêter à cela. Et nous avons vu en dernier lieu comment le corps joue un rôle essentiel dans l'exercice, dans le conditionnement du temps et du lieu par le corps. dans le conditionnement de la communauté. S'il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas ce rôle particulier du corps. Nous découvrons l'importance essentielle du corps au point de vue de l'exercice de nos opérations vitales dans une communauté. La communauté nous révèle à nous-mêmes ce conditionnement substantiel du corps. Je ne crois pas que je pourrais le découvrir si j'étais un pur solitaire, quelque chose qui n'existe jamais totalement. On est né au sein d'une famille, mais peut-être qu'aujourd'hui, étant donné cette espèce de destruction quasi volontaire, déterminée de la famille, on va voir des individus, des hommes, qui ne savent plus ce que c'est que le milieu communautaire fondamental que représente la famille. Jusqu'ici, on avait quand même le soin que si la famille ne faisait pas son devoir, il y avait des substituts de la famille. Il y avait des... On était adoptés. Aujourd'hui, avec le fait que le couple homme et femme n'est plus respecté dans son caractère propre, on le banalise à côté d'autres groupes. Cela va avoir sûrement de très grandes conséquences, beaucoup plus qu'on le pense. Oui, on touche là à ce conditionnement substantiel du corps qui va varier. Comment ? C'est difficile de le préciser, mais il y aura quelque chose qui risque d'être perdu. Mais pas pour tout le monde, c'est évident, la famille continuera d'exister dans une lutte plus grande. Et ce sera plus difficile de la maintenir dans son caractère propre. Et c'est la famille qui, quand même, est pour nous la première communauté. La première communauté dans le devenir du corps, dans la croissance du corps, donc dans la croissance de ce conditionnement substantiel. Or, dans ce conditionnement substantiel, la croissance est essentielle. Parce que la croissance fait partie du conditionnement et du conditionnement essentiel. Que les psychologues déterminent que la première éducation, jusqu'à 4 ans, joue un rôle plus grand que tout le reste, je crois que c'est tout à fait normal, puisque le corps est le conditionnement substantiel pour ma personne, il est donc particulièrement important pour le début même de la croissance. Vous voyez, philosophiquement, il y a deux ordres qu'il faut tout le temps distinguer. Il y a l'ordre de sagesse, l'ordre de perfection, où la finalité est première. Et puis, il y a l'ordre du devenir. Il faut toujours bien distinguer les deux. L'être et le devenir. La perfection, la fin et le devenir. Or, dans l'ordre du devenir, la puissance est première. La causalité matérielle est première. Tandis que dans l'ordre de perfection, dans l'ordre de l'être, c'est la finalité. autrement dit, la cause matérielle joue un rôle primordial pour toute la croissance. Et la finalité joue un rôle primordial pour l'ordre de perfection. Et c'est très curieux qu'on assiste perpétuellement à cette lutte à l'égard de ces deux ordres. Qu'est-ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui? C'est toujours intéressant de se le demander, surtout quand on regarde le conditionnement substantiel du corps. Qu'est-ce qui caractérise la culture moderne, la culture actuelle? C'est la cause matérielle qui cherche par tous les moyens, donc l'homme cherche par tous les moyens de faire passer devant la cause matérielle, de donner à la cause matérielle une importance dominante et primordiale qui fait que l'ordre de perfection de la finalité passe après. On cherche en premier lieu, tout le temps, ce qui est premier du côté de la cause matérielle. Ce que je crois, l'erreur la plus grave de notre monde d'aujourd'hui. Parce que si on ne regarde pas en premier lieu la finalité, on ne la regardera plus jamais. Et on a essayé, c'est curieux, on a essayé d'effacer la cause finale en disant que la causalité finale est une causalité métaphorique. Et aujourd'hui, on essaie d'effacer, de ne plus regarder la causalité finale en regardant l'importance fondamentale et primordiale, entre guillemets, dans notre monde d'aujourd'hui, de la causalité matérielle. C'est le devenir qui intéresse en premier lieu, et non pas la finalité. Et on est toujours incliné vers ça. Oui. Il y a un examen philosophique. Si on veut progresser dans la philosophie et dans la recherche de la vérité, il y a un examen philosophique qui est très important à faire ça. Quand on essaie de regarder sa propre conduite ou la conduite de ceux qui sont proches de nous, du milieu dans lequel on est. Qu'est-ce qui est principal? Qu'est-ce qu'on recherche en premier lieu? Ça ne se dit pas, hein. C'est comme toujours. C'est par en dessous que ça se fait. C'est la taupe. On voit les manifestations, mais on ne voit pas le travail souterrain. Parce que la causalité matérielle, c'est toujours un travail souterrain. On la voit, elle se manifeste lorsqu'elle est glorieuse. Autrement, elle disparaît. Alors, j'essaie de bien comprendre quand je dis que le corps est pour nous donc conditionnement substantiel. Je veux montrer que depuis ma vie végétative jusqu'à ma vie spirituelle, dans l'exercice de mes opérations volontaires, humaines, je dis bien mes opérations humaines, la personne, elle est humaine, elle n'est pas instinctive, elle est humaine, c'est ce que j'acquiers humainement. C'est mon trésor humain, ma personne. C'est quelque chose d'acquis et que j'acquiers pour aimer plus et rechercher davantage la vérité. Dans cette recherche volontaire de ma personne, la causalité matérielle qui joue un rôle déterminant, comprenez bien, au niveau vie végétative, un rôle déterminant, précisons, une coopération essentielle. Toutes mes opérations vitales de vie végétative, vous l'avez vu en voyant la vie végétative, implique la coopération substantielle du corps. C'est le propre de la vie végétative. Même là, le corps ne détermine pas mes opérations vitales. Ma digestion n'est pas déterminée par mon corps. Mais le corps joue un rôle très très important. Mais pas déterminant. Toujours conditionné, conditionnement substantiel. Mais le conditionnement substantiel dans la vie végétative très facilement l'emporte. C'est-à-dire que je me réfugie dans l'instinct. Il y a cet instinctif. Alors on suit l'instinct. Regardez le point de vue psychologique. Il ne faut pas contrarier les instincts. Il faut les assumer, mais avant de les assumer, il ne faut pas les contrarier. Il faut les laisser tranquilles. Pour pouvoir mieux dominer. Quand je dis ne contrarions pas l'instinct, ça veut dire justement que l'instinct détermine mon activité. Au point de vue philosophique, je ne peux pas dire ça. Parce que l'instinct n'est pas humain. Cette parole terrible d'Aristote. Tout ce qui est commun entre l'homme et l'animal n'est pas proprement humain. Il faut plonger. Chez l'animal, l'instinct détermine. Chez l'homme, non. Chez l'homme, c'est la volonté qui détermine. N'est humain que ce qui est volontaire. Ce qui est instinctif n'est pas humain. C'est instinctif. Alors, ça fait partie de mon conditionnel, de mon conditionnement substantiel, mais ce n'est pas ce conditionnement substantiel qui détermine. Même ma vie végétative. C'est très délicat, ça, vous voyez. Parce que là, on est frontière. Mais c'est quand même vrai. Dans ma vie végétative, ce n'est pas mon corps qui détermine ma croissance humaine. Le rythme de ma croissance humaine n'est pas animal. Mais quand, dans son encyclique sur la vie, le Saint-Père dit, dès la conception, je suis en présence d'un être humain. C'est ça qu'il veut dire. Je ne suis pas en présence d'un être animal. Même si l'âme n'est pas créée encore. On confond les deux, là. Constamment. Et le Saint-Père, dans son encyclique sur la vie, distingue bien les deux. Et il a raison. Parce que tout ce qui est humain est finalisé. C'est une fin spirituelle. Alors, est finalisée dans ma vie végétative à travers la détermination de l'instinct, mais l'instinct joue un rôle très important dans ma vie végétative, c'est sûr, mais pas primordial. C'est toujours quand même la finalité. Il dispose. Et c'est là où l'aspect du conditionnement est particulièrement substantiel. Quand je dis substantiel, je dis c'est la détermination. La substance détermine. Mais je dis conditionnement. Parce que ma vie végétative demande d'être humaine. Toute la première éducation, c'est ça. Et comment on introduit le point de vue humain dans la vie végétative, par le rythme de cette vie végétative. Et très très vite, on dit par exemple qu'il faut régler les moments des repas. Ce n'est pas quand l'enfant se met à crier qu'il faut tout de suite donner le biberon. Régler. Et on fait intervenir dans l'instinct. On fait intervenir un ordre. Et c'est sous ce point de vue d'un ordre, donc un ordre qui fait qu'il y a une vie commune. S'il n'y avait pas d'ordre dans votre vie, voyez, si dès que vous avez faim, vous filez tout de suite au réfectoire. Le réfectoire serait le lieu le plus habité de tout le couvent, à toute heure de la journée. Parce que là, il a faim très vite. Après un cours de métaphysique, on a faim. Après la messe, on a faim. Dès que ça creuse. Non, on attend. Mais pourquoi attendre midi pour avoir faim? Pour attendre une heure pour avoir faim? Je suis curieux. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas une heure. C'est l'heure où j'ai mis l'ordre pour me mettre à manger. Donc ça, c'est humain. L'animal ne fait pas ça. Oui, par le dressage, vous imposez ça à l'animal. Mais j'ai mis, hein. C'est le dressage. Le dressage n'est pas l'éducation. Alors là, c'est peut-être là que vous pourriez voir le lien entre le volontaire et l'instinct. Et donc comprendre ce que je veux dire exactement par le conditionnement substantiel. S'il n'y avait pas ce conditionnement substantiel, je crois que l'homme ne serait pas éducable dans son corps. Alors qu'il est éducable dans son corps. La première éducation, c'est cela. C'est la première éducation d'un petit chat. C'est intéressant. Et c'est l'éducation qui fait la famille. Alors il y a une famille royale pour le lion. Il y a une famille royale pour le lion. Mais dans quelle mesure cette éducation va toucher? Ils vont manger ensemble. Et c'est le premier moment d'éducation, ça. On mange ensemble. La famille lion mange ensemble. Avec une reine qui donne à chacun sa part. La lionne. Et ça, ça se fait naturellement. Instinctivement. Oui. Et donc là, le conditionnement corporelle détermine. Et n'est pas seulement un conditionnement. Je crois qu'il faut aller jusque-là si on veut comprendre justement ce que c'est que ce conditionnement substantiel du tout petit enfant quant à son corps. Et c'est la mère ou celle qui remplace la mère qui doit comprendre cela et qui ne doit pas aller trop loin dans l'imposition dressage. Et faire que ce dressage ne soit jamais quelque chose qui arrête l'éducation. Tous les défauts dans l'ordre de l'éducation qui ont été trop impératifs, c'est le dressage qui est passé devant. C'est très important de voir ça. C'est la vie végétative, l'alimentation, la nourriture, qui est le fondement premier de l'éducation. Et la différence entre l'éducation et le dressage. Le dressage engendre des surmois. L'éducation véritable ne doit pas l'engendrer. Et c'est vraiment à partir de ce conditionnement substantiel qu'on peut comprendre la différence qu'il y a entre une véritable éducation qui n'engendre pas un surmoi et le dressage qui l'engendre. Chez l'homme, pas chez l'animal. L'animal demande d'être dressé. Mais je crois que le dressage rend les animaux quelquefois beaucoup plus méchants. Et donc, il y a un petit reste de surmoi. Puis, vous avez le point de vue du conditionnement substantiel dans les opérations vitales, la sensibilité, la passion. Ce n'est plus la vie végétative, c'est l'aspect de l'immanence de la vie qui augmente. C'est sûr, la vie végétative a une certaine immanence, puisque le pain qu'on me sert, la nourriture qu'on me sert, le lait qu'on me donne, est extérieur à moi, et il devient immanent à moi. Je l'assimile. Donc, la vie implique cette assimilation, tout de suite. Et l'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est faire que ce qui est extérieur devient immanent. Donc, c'est ça qui humanise. J'intériorise. Je rends que l'aliment extérieur devient immanent. Il y a à ce moment-là quelque chose de changé dans l'aliment. Le passage de l'aliment à l'immanence. Il y a quelque chose, une certaine intentionnalité. L'aliment digéré n'est pas le même que l'aliment extérieur. Il commence à s'intérioriser, sans en avoir conscience. Hein. C'est mon pain que j'ai mangé, c'est le café que j'ai pris, c'est l'eau que j'ai bu. Et plus j'avance dans les opérations vitales, plus l'immanence augmente, et plus le point de vue du corps devient conditionnement substantiel. Autrement dit, moins il détermine. C'est extrêmement curieux. Et un grand vivant est un vivant de vie spirituelle. Le point de vue de la détermination est de plus en plus volontaire. De plus en plus, c'est vraiment ce point de vue spirituel qui l'emporte. Et le point de vue instinct est de moins en moins fort. On gagne dans une assimilation vitale de plus en plus parfaite, de plus en plus forte. Et la vie végétative ne peut être que métaphorique, comparativement, l'assimilation intellectuelle. Et donc, si vous restez dans cette analogie métaphorique, vous ne pouvez donner que des descriptions vue de l'extérieur et ne pas comprendre. Plus je monte dans les degrés de vie, vie végétative, vie sensible, vie spirituelle, plus le corps est dans un conditionnement de plus en plus extérieur. Le conditionnement de l'image par rapport à ma pensée métaphysique, et je prends exprès la pensée métaphysique, est lointain. Plus l'image ne joue qu'un rôle de conditionnement substantiel pour ma pensée. Mais l'image ne détermine en rien ma connaissance métaphysique, ma connaissance philosophique. Mais là, il faut bien saisir ce rôle-là. Et c'est la même chose pour l'amour. Plus l'amour est spirituel, plus le corps joue un rôle de conditionnement substantiel, immanent. Mais de moins en moins, le corps détermine. C'est très important, ça, pour comprendre comment l'amour d'amitié est premièrement la rencontre de la personne spirituelle de l'autre. Autrement, on dirait, si mon amour reste passionnel, l'importance du corps est beaucoup plus grande. Si mon amour est humain et spirituel, finalisé par un don spirituel de la personne à l'ami, le point de vue du corps intervient moins et peut devenir uniquement un conditionnement qui permet une manifestation, une sorte de, je dirais, d'épanouissement, mais d'épanouissement dans l'ordre de la manifestation, pas un épanouissement dans l'ordre de l'intériorité. Il faut tout de suite faire la distinction. L'amour, plus il est pur, plus il est séparé du sensible, plus il est intense. Le point de vue sensible est là uniquement pour manifester, extérioriser. Mais si mon amour est très intense, il se suffit à lui-même. Et c'est dans cette lumière-là qu'il faut comprendre l'importance du don des corps et l'importance du geste sensible accompagnant l'amour. Vous voyez, il y a toute la gamme. Alors quand vous dites, voyez, en gros, ça ne va pas, il faut préciser. Parce que notre vie, de fait, s'épanouit dans le point de vue de la vie végétative, dans le point de vue de la vie sensible et passionnelle, dans le point de vue de ma vie spirituelle. Et j'ajouterai, si je suis chrétien, dans le point de vue divin, de la charité. Cette relation de ma vie, de point de vue, je me place du côté de la personne. Or, je crois que philosophiquement, ce problème du don des corps, des gestes, doit toujours se comprendre dans la lumière de la personne. C'est pour ça que c'est capital. Oui. C'est le point de vue le plus fondamental, celui-là. Le point de vue moral est second comparativement à celui-là. Et c'est normal. Parce que le bien moral n'est pas l'ami. L'ami est plus que le bien moral de la force ou le bien moral de la justice. Il y a une finalité dès qu'il y a l'amitié. Et parce qu'il y a une finalité, il y a un bien substantiel, et par le fait même, je ne peux pas découvrir ce que c'est que l'amitié sans la métaphysique. Je crois. La filia ne peut se découvrir parfaitement que grâce à la métaphysique. Parce que le bien de l'ami est un bien substantiel. C'est un bien substantiel, l'ami, ça ne peut se découvrir qu'au plan métaphysique. Alors, ce qui montre bien que la finalité réelle de l'homme ne peut se découvrir que par la métaphysique. S'il n'y a plus de métaphysique, on va tomber dans la phénoménologie. Ça, c'est sûr. Et donc, dans une métapsychologie. Parce que c'est le conditionnement qui remplace la causalité formelle. Et quand la causalité formelle se veut parfaite pour être exemplaire, elle remplace sa finalité. On voit très bien toutes ces dégradations. Et alors à ce moment-là, on ne peut plus vraiment préciser les différents degrés de vie. Les différents degrés de vie ne peuvent se préciser que dans une analyse philosophique. Et ces différents degrés de vie sont présents dans la personne métaphysique. Le degré de vie de l'instinct, du corps, conditionnement substantiel. Mais ça reste l'ordre du conditionnement. Corps ne détermine pas ma vie humaine. Mon corps ne finalise pas ma vie humaine. Mon corps peut finaliser momentanément la vie du sportif, c'est sûr. Mon corps, au point de vue artistique, même dans la danse, ne finalise pas l'art. C'est l'esprit présent dans le corps qui en donne la signification. Alors, on voit bien comment le point de vue artistique qui est nécessaire au développement de la personne, si il n'y a pas en même temps un développement spirituel par le point de vue de la prudence et par le point de vue de l'amitié, risque toujours de matérialiser. Pas le grand art, c'est évident. Pas le véritable artiste, mais celui qui copie, celui qui exploite les autres, celui dont l'art devient un art exégétique, d'explication. L'artiste n'explique rien, il réalise une œuvre, mais il n'explique rien. Quand l'artiste commence à expliquer, alors où il explique en philosophe, ah, très bien, la philosophie de l'art. où il explique en psychologue et il retombe d'un point de vue matériel. D'être très attentif à ça. C'est pour ça que ce point de vue du corps comme conditionnement substantiel de la personne est quelque chose de très radical et très important à saisir. Mais difficile. C'est sûr, c'est pas commode. C'est pas commode de faire le discernement au niveau vie végétative entre l'instinct et l'acte volontaire, l'acte humain. Or, l'instinct relève de mon corps. Les seules déterminations de mon corps, c'est des déterminations instinctives. Les seules. Et c'est peut-être là, vous voyez, vous pouvez saisir le mieux, justement, cette sorte d'accaparement du corps par rapport à toutes ces blessures. Et c'est peut-être à cause de cet accaparement qu'on parle de mémoire. Parce que je cherchais pourquoi on dit mémoire. C'est métaphorique. Mais la métaphore a toujours quelque chose de réel. Qu'on doit dépister. Or, la causalité matérielle, elle accapare. C'est pour nous. Pour nous individuellement. Notre corps, c'est l'individu. Or, très facilement, le corps accapare les blessures qu'il a reçues. C'est dans les mesures où même le corps accapare ses blessures que, à ce moment-là, je comprends comment on appelle mémoire du corps. Mais c'est métaphorique. Qu'est-ce que fait la mémoire ? La mémoire est là pour accaparer ce que vous avez compris. La mémoire est là pour accaparer les images. Vous voyez un spectacle magnifique. Vous voudriez que ça dure. Et la mémoire accapare. Vous fermez les yeux, c'est présent. C'est un accaparement très subtil, mais c'est un accaparement, la mémoire. Pourquoi Dieu aime-t-il l'odeur des graisses brûlées ? Des victimes. C'est dans l'écriture, ça. Tu as un drôle d'odorat. Pourquoi ? Parce que, métaphoriquement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les accaparements sont brûlés. Ah, je commence à comprendre. Donc, Dieu aime de voir cette libération qui se fait en nous. Brûler la mémoire, c'est supprimer tous les accaparements. Et on arrive à la pauvreté. Alors Dieu aime ça. Oui, j'ai le droit de me servir d'un texte de l'Écriture au plan philosophique, pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, c'est la dernière vision de la mémoire du corps. Dans un point de vue religieux, extraordinaire. Parce que c'est vrai, on a tous lu ça, et quand on était gosse, ces textes, ben oui, ça nous frappait. On sent Dieu qui se met à gifler. Il aime l'odeur des victimes. Plein de graisse, de bonnes victimes, c'est pas un pauvre petit mouton, quoi. On offre à Dieu, c'est le plus joyeux, le plus gracieux. Puis on le brûle d'une odeur extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu se réjouit. Oh, c'est extraordinaire. Il se réjouit. Ça. À la Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un sens, autrement on ne serait pas dans l'écriture. Ça a un sens. Alors, cherchons la causalité matérielle à Capart. Ça, philosophiquement, c'est évident. Si vous ne l'avez pas encore vu, essayez de le voir. La causalité matérielle à Capart, elle se replie. Alors, à partir de là, vous comprenez tout. Toutes les blessures à Capart. Ça fait tout de suite, ça se gonfle. Ça se gonfle, ça. C'est rare qu'une coupure se recolle sans aucun gonflement. Alors, Dieu aime qu'on brûle tous ses accaparements. Il se réjouit de cela. Il est heureux de tout cela. C'est l'adoration. On est en face de Dieu, nu, la nudité en face de Dieu. On n'a rien, aucun avoir. La mémoire, c'est l'avoir. C'est l'avoir et l'être. L'être est nu. L'avoir est habillé. Et il aime la manifestation. La manifestation, c'est du côté de l'avoir. C'est la propriété. Alors, c'est une manière de regarder ce conditionnement substantiel, ces bavures, les bavures du corps, de la causalité matérielle. Ce sont les accapements, ce sont les manifestations. On aime ça, de voir ces manifestations. Et on est arrêté par ça. Et on vit alors là. Dieu n'aime pas ses accaparements. Il veut la limpidité. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je retournerai. Job. Et alors, la nudité prend là sa signification. C'est que il faut être net et précis.